Chronique des années égarées.
Témoin privilégié d'une époque à la fois riche et douloureuse, Serge Moscovici nous conduit sur les chemins du souvenir de son enfance roumaine à Paris. Il est le guide de cette histoire qui est un peu la nôtre.
Serge Moscovici, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous vous avons laissé lors de notre dernier épisode à Boucovine. Et ce sont les aventures sentimentales de votre père, et oui, une fois encore, qui vous ont conduit là.
Et oui, pas tout à fait les aventures sentimentales. Vous savez, nous vivions en Bessarabie, qui était une région d'influence russe, et c'était une vie un peu désordonnée, mais très poétique, sentimentale, un peu comme la vie russe, hein. Et la communauté était très importante. Je pense que un tiers de la population était juive en Bessarabie. Et une des occupations les plus importantes de ces communautés était le mariage. Il fallait toujours marier les gens. Et donc mon père était seul, il avait un enfant, c'était un bel homme, il avait ses aventures. Mais la pression au mariage était très, 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 très forte. Et moi, je n'étais pas tellement pour qu'il se remarie, peut-être par attachement à ma mère, peut-être par une sorte d'espoir qu'elle va revenir, qu'il va se remettre avec elle, qu'il trouvera ma sœur. Et puis un jour, il disparaît et il revient marié. Et il revient marié avec une femme de Boucovine. Or, la Boucovine est une province une autre province de la Roumanie qui a été sous l'influence allemande, sous l'influence autrichienne. La culture allemande était très forte en Boucovine, et d'ailleurs, mon ami Paul Celan est de Boucovine, tous les jours. Il y a eu beaucoup de grands écrivains de langue allemande en Boucovine. Et donc, il vient, il m'emmène, comme toujours, sans me demander mon avis. Et nous partons dans une ville qui s'appelle Campoulon, qui était une station balnéaire, et j'arrive dans une famille juive, mais comment dirais-je, qui était le contraire d'une famille russe. Si vous voulez, le rapport entre les juifs de Bessarabie, d'origine russe, et les juifs de Boucovine, qui était sous l'influence allemande, était un peu celle qui existe entre les Séfarades et les Ashkenazes. Hein. Nous, on était considérés un peu grossiers, sentimentaux, etc. Et donc, j'arrive dans cette famille qui menait une vie ordonnée, propre. Et donc, ma nouvelle mère se met à me civiliser. Donc, il fallait bien que j'apprenne à manger, à dire bonjour, enfin, toutes ces choses, toute cette éducation, si vous voulez, polie, qui a été négligée.
Et comment est-ce que vous vivez, vous, enfant, cet ascendant maternel, et je mets le terme de maternel, bien sûr, entre guillemets.
Mais d'une manière assez, assez difficile, parce que elle était une femme d'ordre. Il lui arrivait de me battre, ce qui m'est jamais arrivé avant. Et puis elle avait une sœur d'hargne, enfin une sœur d'hargne civilisatrice, si je puis dire. Et donc, et mon père s'installe, une vie régulière, ils avaient des magasins, donc ce n'est plus le commerce du blé où il faut se lever à 5 heures, on vit en plein campagne avec les paysans. Et donc j'entre dans cette vie civilisée, et dans cette vie civilisée, il y a aussi la radio.
Et alors la radio va justement jouer un rôle
important, parce que comme elle écoutait beaucoup la radio, plusieurs jours d'ailleurs, nous tombons sur, je ne sais pas si c'était Berlin ou sur des radios allemandes. Et là, j'entends pour la première fois Hitler.
C'est en 1935.
C'est en 1935. Et alors, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y avait d'abord cette voix forte et hargneuse. Mais en même temps, cette mise en scène radiophonique, d'ailleurs Hitler est le premier à avoir utilisé la radio pour la propagande, et la mise en scène de toutes ces musiques militaires, de toutes ces musiques populaires, des mouvements, Et c'était une situation très, très curieuse parce qu'à la fois, ça me faisait peur à écouter Hitler et en même temps, j'étais pris dans cette, frénésie de foule, vous voyez. Mais quand même, la peur a pris le dessus et là, je lui avais demandé d'arrêter, c'est-à-dire de ne plus écouter la radio Berlin. Et effectivement, elle a répondu à ma demande.
Mais paradoxalement, votre famille, enfin cette nouvelle famille en tout cas, ne prend pas Hitler très très au sérieux. On a un peu la sensation que c'est un monde renversé où les enfants paraissent beaucoup plus conscients finalement, comme par sensation, des dangers à venir.
Mais on oublie ça, mais les gens ne prenaient pas vraiment Hitler au sérieux. C'est-à-dire les gens ne pensaient pas qu'il constituait une vraie menace. Mais surtout pour eux, l'Allemagne c'était la culture. Vous savez, c'était la quintessence de la culture, de l'ordre. Hein, c'était le pays des grands auteurs. Et donc, ils ne pouvaient pas s'imaginer. Si vous voulez, on s'était habitué, entre guillemets, au pogrom russe, à la brutalité des Cosaques. Et c'est là où on avait peur. Hein. Mais l'Allemagne, ce pays de Goethe ne pouvait pas être. Et donc, on a toujours sous-estimé ce danger d'Hitler. Vous voyez, quand les jeunes qui étaient peut-être plus sensibles. Je pense que les jeunes ont toujours une sorte de radar pour les événements, alors que les parents vivent quand même dans un sort de monde de rationalisation et de confort.
Hein. Est-ce que dans ses propos, Hitler était déjà antisémite ? Est-ce qu'on sentait un antisémitisme affiché ?
Bien sûr, et cet antisémitisme, quand même, il y avait toujours l'histoire des Juifs. Enfin, je veux dire, là, et quand même, ça résonnait avec ce qui s'est passé autour, parce que dans les années 35, nous avions déjà en Roumanie la gare de fer. C'est quand même le mouvement fasciste le plus important de l'Europe de l'Est. Donc c'était de l'intérieur et de l'extérieur, si vous voulez. Il y avait une chose dont on parlait tout le temps, c'était les Juifs. J'en parle d'ailleurs dans ce livre. Et donc c'est peut-être parce que moi j'étais un enfant seul ou plus sensible, je sais pas, ça m'a fait quand même peur et c'est une chose qui m'a marqué.
Ceci étant, à l'époque, la Roumanie n'est pas encore alliée avec l'Allemagne. La Roumanie est plutôt du côté français, anglais.
Oui, mais enfin, on est assez proche, on est à pratiquement un an ou deux ans des premières lois racistes en Roumanie, parce qu'en 1937, nous avons eu déjà les premières lois racistes. Et donc, toute cette communauté n'y croyait pas, hein. Et alors donc, j'ai vécu à peu près pendant un an avec mon père et cette mère. Et la chose la plus difficile et la plus insupportable pour moi, c'était cette discipline à l'allemande dans la famille, le mépris, parce que les Juifs allemands ont souvent eu un mépris pour les autres Juifs. Le Juif de l'Europe de l'Est était quand même rejeté. On a considéré qu'ils étaient primitifs. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de gens qui écrivaient à ce moment-là que s'il y avait de l'antisémitisme, c'est à cause des Juifs de l'Europe de l'Est. Einstein a écrit sur cette question un article fameux.
Alors cette période, c'est également la période de votre première fugue. C'est une fugue ratée, disons-le tout de suite, mais qui est quand même très importante, elle est riche de sens.
Oui, c'est la première fugue parce qu'un jour, elle m'a battu très fort. Et alors, donc, je suis allé protester auprès de mon père. Mon père n'a pas voulu écouter. Il avait aussi son amour, ses conforts, etc. Alors j'ai décidé de partir. Hein, et je suis allé jusqu'à la gare. Et à la gare, on m'a découvert, si vous voulez, et on m'a ramené à la maison. Mais par cette fugue, il devenait impossible que je vive, que je continue à vivre là, que mon père continue à vivre avec elle. Donc j'avais introduit une sorte de perturbation très forte, à la fois dans leur couple et dans mes rapports avec elle. Je ne voulais pas l'appeler mère, ça c'était un autre
sujet de discorde.
D'ailleurs, Mouti, parce qu'on appelait ça Mouti en allemand, ça me semblait un mot très, très désagréable. Et donc, à ce moment-là, mon père décide de se séparer, dans un certain sens, de moi, et c'est la première séparation que nous avons connue, et de me déposer chez sa sœur.
Kinderjorn, süße Kinderjorn, ewig bleibt ihr wach in mein Sikorn. Wenn ich tracht von eurer Zeit, werd mir also ich bang und laut, oi, wie schnell bin ich schon alt geworden. Steht mir noch das Stiebel vor die Augen, wo ich bin geboren, aufgezeugen. Euch mein Wiegel seh ich dort, steht noch auf demselben Ort, wie a volle mich das Salz verfleugen. Euch mein Wiegel seh ich dort, steht noch auf demselben Ort, wie a volle mich das Salz verfleugen. Und mein Mame, ach, ich pfleg sie lieben, Gott, sie hat in Feder mich getrieben. Jeder Knibis von ihr Hand mir noch also gut bekannt, hat kein Zeichen ist ihr nicht verblieben. Kinderjorn, junge, schöne Blume, zurück zu mir wird ihr schon mehr nicht kommen. Von der Stube stock ein Fleck, Fegele ist euch aber, oi, wie schnell bin ich schon alt geworden. Der Stuhl nicht trug ein Fleck, Fegel, wie soll ich haben? Oi, wie schnell bin ich schon alt geworden.
Vous voilà donc parti en solitaire et un nouveau lieu pour nous découvrir avec vous, Galaxy.
Ce départ est quand même un des événements importants, le plus important de ma vie, parce que je pense qu'à ce moment-là, mon enfance était terminée. La vie de famille, la vie de la terre, la vie avec mon père, c'était terminé. Parce que en arrivant à la Galaxie, qui est une ville qui se trouve le long de Danube, enfin. Un peu plus loin de Braila, j'arrivais donc chez ma tante que je ne connaissais pas, qui avait ses problèmes, ses enfants, son mari, etc., malade et tout ça. Mais surtout, j'arrivais dans une ville qui était assez, comment dirais-je, bruyante, rude. Je me sentais déraciné dans le monde de la ville. Mais aussi, c'est pour moi la première rencontre avec l'antisémitisme. L'antisémitisme réel, si on peut dire. Bon, jusque-là, on a vécu entre nous, si vous voulez. Bon, on vivait entre les Juifs. J'allais à l'école de Tarbout. J'avais lu la Bible. J'allais à la synagogue. Je respectais les fêtes, etc. Et je savais bien que j'étais isolé du monde extérieur, que je n'étais pas comme les autres, entre guillemets. Mais je ne l'avais pas rencontré personnellement. Et donc, Galati, où donc je me suis inscrit au lycée, un lycée juif, parce que, comme je le disais, les juifs de classe moyenne ou pauvres ne s'inscrivaient pas dans le lycée, disons, d'État. Et là, pour la première fois, j'ai connu l'agression. L'agression parce que j'étais juif. On était suivi par les garçons. D'une part, Bon, il y avait il y avait tout un folklore de jurons, d'épithètes, de tout ça, mais il y avait aussi l'agression physique. Et je raconte cette histoire parce qu'elle me paraît assez paradoxale. On allait dans le lycée juif pour une raison de protection en grande partie. Mais les lycées, à ce moment-là, avaient chacun un numéro, une couleur. Et donc nous avions, je me souviens, des casquettes avec une couleur blanche, et puis nous avions des numéros sur notre veston du lycée. Or, tout le monde savait que c'était le lycée juif. Hein, c'était comme si on portait une étoile jaune. Hein. Et donc, c'est la première rencontre avec l'antisémitisme. Et en même temps, si vous voulez, je rentre dans la société, dans l'ensemble. Je commence à être touché par les événements historiques. Par exemple, c'était la guerre d'Espagne. Et je ne sais pas pourquoi, mais enfin, je pourrais l'expliquer aussi, pour des raisons très profondes, peut-être parce que j'étais un enfant de couple divorcé, parce que je me suis senti persécuté par cette séparation elle-même. Et donc, je suis devenu très sensible à cette guerre d'Espagne. Et tout d'un coup, spontanément, je me suis mis du côté de l'oppressé, donc du côté des rouges espagnols, de la République. Il faut bien dire que je vais revenir juste un moment sur le Pessah dont j'ai parlé, qui est vraiment pour moi la fête qui m'émeut même aujourd'hui, et même si je n'y crois pas, j'y vais quand même. Je crois que le document le plus fort, plus fort que le manifeste communiste, c'est la Haggadah. La Haggadah, c'est ce qui vous inculque cette idée que l'oppression est insupportable, que vous devez vous libérer de cette oppression. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la Haggadah vous dit que vous devez vivre ce qui s'est passé en Égypte comme si c'était votre histoire personnelle. Vous voyez, c'est pas une commémoration. Et alors, je crois que la Haggadah m'a inculqué cette impatience, cette révolte contre l'oppression. Et cette idée qui affectivement existe en moi, c'est une sorte de sentiment, une idée affective, que l'oppression est intolérable. Hein, et que dès qu'elle... Et alors, donc, ça a joué pour moi, ça a joué un grand rôle dans ma vie, parce que, dans certains sens, ça a déterminé aussi mon orientation politique, très très jeune. La guerre d'Espagne, donc il y avait une sorte d'identification avec la guerre d'Espagne qui s'est opérée à ce moment-là. J'ai dit c'est la fin de l'enfance parce que d'une certaine manière, par cela même et pas sur un plan imaginaire, j'étais entraîné dans l'histoire, dans la vie des adultes. Et puis l'histoire s'est rapprochée, elle m'a amené plus loin encore, vous voyez ce que je veux dire.
Alors justement, pour fermer complètement cette page de l'enfance, est-ce que vous avez su ce qu'était devenu Gusta, qui était donc votre belle-mère et Elijavitz?
Non, je l'ai cherché après la guerre, parce qu'ils étaient de la région de la Bukovine, qui n'a pas été déportée par les Roumains, parce qu'il y a une partie qui a été déportée en Transnistrie. Je ne les ai pas trouvés. Je n'ai trouvé simplement, il y a quelques années, vous voyez que les curiosités ne disparaissent jamais, une statistique qui est assez simple. Avant la guerre, dans cette ville de Kampulung, il y avait 1400 juifs. Pendant la guerre, il n'y en avait plus que 6.
Dans notre prochain épisode de Serge Moscovici, nous rencontrerons une des femmes de votre vie dans cet univers plutôt masculin jusque-là. Il s'agit de Tantiana, la sœur de votre père.
Chronique des années égarées, Serge Moscovici, édition Stock, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévy.
Réalisation technique, Jean-Philippe Andlicher.